Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, bienvenue à ce premier cours que je donne dans le cadre de cette chaire internationale 2007-2008 et qui est intitulée « Cellules gliales, neuroénergétiques et maladies neuropsychiatriques ». Alors c'est clair que c'est un vaste spectre que je vais essayer de couvrir, mais l'idée est qu'il y a un fil rouge dans ces termes. Pour ceux qui étaient là à ma leçon inaugurale il y a bientôt un mois, j'ai essayé de mettre en lien trois éléments qui sont la neuroénergétique, qui est vraiment le fil conducteur, avec les synapses, donc le fonctionnement neuronal est là où se passe le transfert d'informations, et l'image, parce que, évidemment, les techniques de neuroimagerie qui ont tellement apporté à nos connaissances en neurosciences et neurosciences cliniques sont basées sur la neuroénergétique. Alors, aujourd'hui, je vais donner un cours assez, on va dire, pointu, qui est différent de ma leçon inaugurale, dans laquelle je vais essayer de définir les éléments de la neuroénergétique. Qu'est-ce que c'est que la neuroénergétique et quels sont les besoins énergétiques du système nerveux? Parce qu'en fait, la question fondamentale, et comme je vous l'ai dit, qui est au centre de ce trajet que je vais essayer de faire depuis la neuroénergétique aux maladies neuropsychiatriques, en fait, passe justement par la compréhension des besoins et des limites, des besoins énergétiques et des limites que ces besoins imposent au traitement de l'information. Juste encore un dernier mot en guise d'introduction, les cellules gliales jouent un rôle fondamental dans la neuroénergétique, donc dans le budget énergétique du cerveau, et de ce fait mettent des contraintes au traitement de l'information. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce terme de neuroénergétique? En fait, c'est un terme assez récent, qui a été, je dirais, qui est dérivé de ce qu'on appelle en biochimie générale la bioénergétique, c'est-à-dire les processus qui produisent et consomment de l'énergie dans une cellule. Neuro, le préfixe neuro, signifie qu'on va s'intéresser aux processus qui consomment de l'énergie et qui produisent de l'énergie dans le cerveau. Et de nouveau, je reviens de temps en temps sur ce fil rouge, parce que c'est effectivement un grand écart d'aller des cellules gliales aux maladies neuropsychiatriques en passant par la neuroénergétique. Comme je vous l'ai dit, ces processus qui consomment de l'énergie, qui produisent de l'énergie, sont au centre des techniques d'imagerie qui permettent de visualiser le cerveau en activité dans des conditions normales et pathologiques. Ça, c'est vraiment, c'est important de bien placer ça, quel est le fil rouge qui va m'amener de la neuroénergétique aux maladies neuropsychiatriques, en passant par les cellules gliales, qui jouent un rôle fondamental, et en passant par l'imagerie. Alors là, j'ai juste sorti ce que je crois être le premier événement public de neuroénergétique. C'était en fait un colloque qui s'est tenu à Strasbourg en 2002, sous l'égide d'une organisation qui est le Human Frontier Science Program, qui est une organisation internationale qui stimule d'une part les échanges internationaux et d'autre part justement la recherche à la frontière, Human Frontier. Alors elle soutient essentiellement des projets de recherche, mais occasionnellement elle soutient également des colloques et des colloques justement dans des domaines aux frontières des disciplines. Et en fait étaient réunis là toute une série de neurobiologistes qui d'une manière ou d'une autre pouvaient se retrouver autour de cette notion de neuroénergétique. Voilà simplement pour l'histoire, si je puis dire, l'histoire récente de cette nouvelle discipline. Et vous voyez que déjà dans l'intitulé de ce colloque, en fait, il y avait un sous-titre qui indiquait que cette neuroénergétique est importante et relevante pour comprendre l'imagerie fonctionnelle cérébrale. toutes ces techniques qui permettent de visualiser le cerveau au travail et qui, comme je vous l'ai dit, petit à petit, nous amènera aux maladies neuropsychiatriques. Alors, quelques mots pour commencer quand même au niveau de la compréhension, enfin pour expliciter qu'est-ce que c'est que les besoins énergétiques du cerveau, à quoi ça correspond. Et surtout, réaliser qu'on peut aborder le métabolisme cérébral, parce que finalement, métabolisme énergétique cérébral, c'était l'ancien terme de neuroénergétique, on peut l'aborder à différents niveaux de résolution. On peut d'abord prendre le cerveau comme un organe, comme on prendrait le muscle, comme on prendrait le foie, et de dire, voilà, on va voir combien d'énergie consomme le cerveau par rapport au foie, quels sont les processus biochimiques globaux, si on prenait le cerveau comme organe, qui consomme et produise de l'énergie. Alors, quelques données vraiment de base. En fait, le cerveau est un organe qui a d'importants besoins énergétiques. Il constitue finalement essentiellement seulement 2% de la masse corporelle, mais en fait, il reçoit 15% du débit sanguin, lui est destiné, 25% de la consommation totale de tout l'organisme de glucose est destinée au cerveau, et la consommation d'oxygène est aussi de l'ordre de 20%. Donc vous voyez que les ressources énergétiques de l'organisme sont destinées essentiellement pour un quart, un cinquième, elles sont destinées au cerveau, alors que le cerveau ne constitue que 2% de la masse corporelle. Donc, on peut déjà d'emblée dire que le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie, et comme quelque part le cerveau est quand même l'organe traite l'information en ligne et hors ligne, enfin qui fait de nous finalement ce que nous sommes, on voit que ce traitement de l'information coûte beaucoup d'énergie. Ça, c'est le premier point simple à poser. Alors, juste quelques valeurs. Je les mentionne parce que finalement, on les retrouve sous 36 formulations dans beaucoup de textes. Donc là, j'essaie de les regrouper dans une seule, avec des mêmes unités. Donc ça vous semblera un petit peu abstrait, mais disons c'est un point de repère et ça sera de toute façon parmi l'information supplémentaire qui est sur le site du collège. Donc ça sera mis sur le site dans quelques temps, je pense assez rapidement. Donc, consommation d'oxygène, on a vu, c'est, voilà la valeur, 160 millimoles par 100 grammes par minute. Mais ce qui est important, c'est que le cerveau est un organe qui a ce qu'on appelle un quotient respiratoire de 1. Ça veut dire qu'essentiellement, il consomme du glucose et l'oxyde entièrement. C'est-à-dire qu'il produit de l'eau et du CO2 à partir du glucose. Ça, c'est ce qui définit un tissu avec un quotient respiratoire de 1. La consommation de glucose, justement, est de l'ordre de 31 millimoles par 100 grammes par minute. Or, comme ce tissu a un quotient respiratoire de 1, la stoichiométrie toute simple, la biochimie de base, voudrait que pour 1 millimole de glucose avec 6 carbones, il y ait 6 millimoles d'oxygène qui soit consommé, ce qui donnerait en fait une consommation théorique de glucose de 26 millimoles par 100 grammes par minute. Or, on voit que la consommation de glucose est supérieure, elle est de l'ordre de 31 millimoles. À quoi sont dus ces 5 millimoles supplémentaires de glucose qui sont consommés par rapport à ce qui serait prédit pour un organe qui aurait un quotient respiratoire de 1? Eh bien, cet excès est dû à différents processus. D'abord, et on verra au cours des prochaines leçons, que la glycolyse, c'est-à-dire la consommation de glucose sans consommation d'oxygène, est présente dans le système nerveux. Donc, il n'y a en fait pas exact. Donc, il y a un peu plus de glucose qui est consommé sans qu'il y ait de l'oxygène qui soit consommé. Donc, voilà, première contribution à ce delta. Deuxième raison, c'est qu'il y a dans le cerveau, et on verra combien ceci est bien contrôlé, il y a du glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose. Et évidemment, le cerveau n'est pas un organe de stockage d'énergie, ce n'est pas comme le foie. Dans le foie, on stocke du glycogène. Dans le muscle, il y a aussi du glycogène, un peu moins que dans le foie, mais il est là, disponible, c'est une réserve énergétique. Au niveau du foie, c'est une réserve énergétique pour tout l'organisme. au niveau du muscle, c'est une réserve énergétique pour le muscle, et au niveau du cerveau, il y a du glycogène. En fait, on verra que c'est une caractéristique de ces fameuses cellules gliales qui sont dans l'intitulé de mon cours et dont je vais, sur lesquelles je vais passer pas mal de temps. Donc, il y a un peu de ce glucose qui est stocké sous forme de glycogène, et donc, évidemment, il ne va pas participer à la consommation. Enfin, il y a toujours un surplus de glucose non consommé parce qu'il est stocké sous forme de glycogène. Donc, voilà une deuxième raison pour ce delta de 5 millimoles. Troisième élément, c'est la glycosylation, c'est-à-dire que le glucose est utilisé pour apporter des modifications post-traductionnelles pour des protéines, pour glycosyler des protéines, pour glycosyler des lipides. Donc, si vous voulez, une sorte d'utilisation presque structurelle du glucose. Et finalement, le glucose aussi est utilisé pour la synthèse de certains neurotransmetteurs, et pas des moindres, notamment pour la synthèse de glutamate, pour la synthèse de GABA et pour la synthèse d'acétylcholine. Donc il y a, vous voyez là, cette différence de 5 millimoles, et on sait à peu près à quoi l'attribuer, à toute une série de processus biochimiques qui sont propres au cerveau. Et puis, dernière valeur, dans les unités aussi de 100 millimoles par 100 grammes par minute, c'est le débit sanguin à 57 millimoles par 100 grammes par minute. Alors voilà des données qui prennent le cerveau comme un organe, comme je vous l'ai dit, comme on prendrait le muscle, comme on prendrait le foie. Et en fait, on pourrait s'arrêter là, et c'est un peu là où s'est arrêté, où s'est trouvé plutôt la neurochimie, donc la biochimie du cerveau, dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on a pris le cerveau comme si c'était un tissu homogène, on a étudié ces données métaboliques, mais on a aussi fait des analyses beaucoup plus fines d'expression d'enzymes, d'activité d'enzymes, etc. Mais toujours en prenant le cerveau comme un organe. Or, il y a bien sûr un second niveau de résolution, même évidemment, non, sans parler d'aspect neurobiologique, mais purement métabolique, qui est la régulation locale du métabolisme. Il y a, et ceci est à la base, en fait, des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Selon l'activité de groupes de neurones qui sous-tendent une certaine action. En ce moment, je suis en train de parler, donc mon aire de la parole va être plus active que le reste du cerveau. Si je faisais une TEP, une tomographie à émission de positon, pour mesurer la consommation de glucose de mon cerveau, on verrait que dans cette région, il y aurait plus de glucose consommée. Donc, il y a au-dessus, si vous voulez, de cette consommation basale, sur laquelle je reviendrai parce qu'elle est en fait très importante et en fait relativement énigmatique, il y a des consommations locales de glucose, d'oxygène et évidemment d'une augmentation qui est soutenue, si vous voulez, par une augmentation du débit sanguin. Et c'est justement cette consommation locale, ces processus locaux qui sont à la base des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale qui sont tellement importantes justement dans cette imagerie dans les maladies neuropsychiatriques dont je vais parler à la fin de ce cours, et qui sont donc essentiellement la tomographie à émission de positons, qui permet de mesurer à l'aide de molécules traçantes marquées par des émetteurs de positons la consommation de glucose locale, la consommation d'oxygène local et le débit sanguin local. Et puis une technique qui a... disons, il y a eu un très grand développement au cours de ces dernières années parce qu'elle est plus simple quelque part, elle nécessite moins d'infrastructures. La TEP nécessite un cyclotron pour produire des isotopes et ensuite faire une radiochimie qui permette de synthétiser des molécules, donc c'est lourd. L'IRM fonctionnel, ce n'est pas le cas, dans la mesure où finalement l'agent de contraste, entre guillemets, est endogène. Il s'agit de l'hémoglobine, qui peut être, selon le degré d'activation d'une région cérébrale, plus ou moins dans sa forme oxy ou déoxy. Je reviendrai plus tard dans le cours là autour, mais en fait, c'est un agent de contraste, entre guillemets, endogène, qui est le signal détecté par IRM. Mais enfin, de toute façon, ces techniques détectent des signaux liés à la consommation d'énergie. Donc on voit que surimposé à ce niveau basal, qui est important, dont je vous ai donné les valeurs, du cerveau pris comme un organe, il y a des consommations locales qui servent de base à l'imagerie cérébrale. Et juste, je le dis en passant, parce que c'est vraiment un point important que je reprendrai, finalement, ces augmentations locales qui produisent de très belles images, surtout avec les traitements d'images, en fait, ces augmentations locales sont assez faibles. Elles augmentent, par rapport au niveau basal, l'augmentation est de l'ordre de 10-20% grand maximum, quel que ce soit pour la consommation de glucose ou le débit sanguin, 30% mais dans des cas extrêmes. Donc on voit que, bien sûr, il y a cette régulation locale, mais il y a un basal très important. Alors, juste pour la petite histoire, je ne peux pas résister, étant dans ces lieux aussi... plein d'histoires, de faire une très brève histoire de l'imagerie, juste une diapositive, pour vous dire que finalement, probablement, la première technique d'imagerie cérébrale et en fait les premières conclusions dérivées à partir de ces observations concernant la régulation locale datent du milieu du 19e siècle. C'est un physiologiste italien, Angelo Mosso, à Turin, qui en fait avait développé un appareil qui mesurait, comme il disait, des pulsations vasculaires. Il mesurait probablement des modifications de la paroi vasculaire lors du passage de l'onde systolique, vraisemblablement. Et il utilisait ça au niveau de l'avant-bras. Vous voyez ici cette mesure. Mais quelque chose d'autre se passait au niveau cérébral. Il a eu quelques patients qui avaient eu des lésions crâniennes, qui avaient produit des fenêtres crâniennes, qui s'étaient recouvertes par une membrane. On pouvait, en fait, mettre le détecteur sur la surface de la cérébrale, séparé par cette membrane cicatricielle, si vous voulez. Et alors il étudiait, en fait, il voyait qu'il retrouvait ce type de pulsation également au niveau cérébral. Et soudainement, quelque chose se passa, des cloches, le carillon de l'horloge qu'il avait dans sa pièce, plus les cloches de l'église sonnèrent. Et là, il mesura quelque chose. Ensuite, il lui posa une question, est-ce que ça lui faisait penser à quelque chose, notamment est-ce qu'il aurait dû aller à l'église à ce moment-là. Il répondit, et là, il mit en évidence un changement du profil de cette pulsation. Il demanda, lui posa même une question, de faire un petit calcul, il écouta, il répondit, voilà. Enfin, ce qui lui permit de dire qu'il y avait quelque chose qui, au niveau cérébral, qui influençait le débit sanguin, qui était indépendant de la circulation systémique et qui était relié à une activité mentale. Voilà, c'est une définition comme une autre de l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et puis, deuxième diapo historique, là, dans des conditions beaucoup plus standardisées, contrôlées et expérimentales, bien définies, semi-quantitatives, Sherrington, qui est un des pères de la neurophysiologie moderne, c'est lui qui d'ailleurs introduit le terme de synapse, conduisit des expériences, finalement dans un dispositif comme celui clinique proposé par Mosso, enfin observé par Mosso, mais là évidemment c'était chez des animaux où il put donc effectuer des fenêtres crâniennes et mesurer le débit sanguin local, et il put mettre en évidence que lorsque par exemple il effectuait une stimulation sensorielle, il pouvait mettre en évidence dans le corps sensoriel, somatosensoriel, des variations du calibre des vaisseaux cérébraux, et il postula l'idée que le cerveau possède un mécanisme intrinsèque par lequel le débit sanguin peut être varié localement en correspondance avec les variations locales de l'activité fonctionnelle. Voilà, c'est de nouveau, c'est vraiment ce qui est à la base de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, cette régulation locale. Je vous ai parlé d'abord au niveau global, là on est au niveau local, on est au niveau des premières analyses physiologiques et la mise en évidence de ce principe physiologique de régulation locale pour le débit sanguin. On sait aujourd'hui que ce n'est pas seulement le débit sanguin qui est contrôlé localement, mais Également, par exemple, la consommation de glucose. On reviendra sur ce type de diapositive, sur ce type d'expérience, pardon. Là, on voit qu'en stimulant une vibrisse, on augmentera la consommation de glucose dans la projection correspondante. J'élaborerai là autour, pour ceux qui connaissent ce type d'expérience, c'est tout à fait évident, c'est que la consommation de glucose augmente localement dans la région de projection de cette voie sensorielle qui va de la vibrisse à une organisation particulière dans la couche 4 du cortex somatosensoriel, qui est le baryl. Et on voit que, là c'est une technique d'imagerie qu'on utilise chez l'animal, qui est la radioautographie pour du 2-déoxyglucose. On visualise le 2-déoxyglucose et la radioactivité liée au 2-déoxyglucose. Donc, ce couplage existe également pour le glucose. Et puis là, c'est simplement une autre démonstration tirée des travaux notamment de Raichel, qui montre qu'effectivement, lors d'une stimulation visuelle importante, eh bien, le cortex visuel, on peut mettre en évidence une augmentation du débit sanguin, une augmentation de la consommation de glucose, un peu moins de la consommation d'oxygène. Ça, c'est un point important sur lequel qui est très controversé, je reviendrai. Mais enfin, voilà. Donc, voilà le terrain de base qui nous amène au niveau de résolution suivant. Donc, j'ai parlé du métabolisme cérébral au niveau de cerveau comme organe, du métabolisme cérébral et sa régulation locale, bref, survol. Mais il y a un troisième niveau de résolution qui a émergé au cours des 15 dernières années et qui a constitué une même 20 dernières années, qui a constitué une des lignes de recherche principales de mon laboratoire, qui était la résolution cellulaire. C'est-à-dire, le cerveau, comme vous le savez, est un organe extrêmement hétérogène en type cellulaire. Il y a bien sûr les neurones, mais il y a également les vaisseaux qui sont là, les cellules gliales. Et en fait, la question qui se posait et à laquelle on a essayé de répondre au cours de ces années, c'est d'essayer de mettre en évidence quels sont les mécanismes qui sont à la base de ce couplage que Sherrington avait décrit pour le couplage vasculaire, que d'autres ont décrit pour le couplage avec le glucose, notamment Sokolov. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les événements électrochimiques qui se passent au niveau de la communication neuronale, au niveau synaptique en particulier, sont couplés à ces réponses métaboliques, consommation de glucose, à ces réponses vasculaires, augmentation du débit sanguin, qui, en fait, fournissent les signaux détectés par imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, vous retrouvez de nouveau ce fil rouge. On peut dire que cette partie-là, ce serait la neuroénergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie et le couplage pour fournir cette énergie. Et vous avez là l'imagerie, cette imagerie de nouveau qui est importante et qui a trouvé des applications récentes dans le domaine de la neuropsychiatrie. Alors, je vais vous parler, bien sûr, ça occupera plus ou moins les deux prochaines leçons, quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires de ce couplage. Mais se pose une question que j'ai mis en titre de cette leçon d'aujourd'hui, les fondements de la neuroénergétique, c'est-à-dire quels sont les processus neuronaux en particulier, mais disons quels sont les processus qui coûtent de l'énergie au niveau du cerveau. Et là, je vais rentrer dans une analyse assez fine. Il y a différentes tentatives qui ont été faites depuis, je dirais, 5-6 ans pour vraiment construire ce que l'on appellerait un budget de la consommation d'énergie du cerveau. Qu'est-ce qui coûte tellement d'énergie au cerveau, aussi bien en conditions basales qu'en conditions stimulées? Et il y a deux ou trois groupes qui s'y sont attelés. Je vous le dis d'emblée, je pense qu'aucun des trois ne rend compte de manière entièrement satisfaisante de ce budget, mais il faut bien commencer quelque part. C'est donc un processus en cours qui doit être pris. Nous allons d'ailleurs nous y remettre maintenant avec un groupe de bioinformaticiens à Lausanne et à Zurich. Mais, comme je vous le disais, il faut partir quelque part. Il faut essayer de voir, finalement, qu'est-ce qui coûte de l'énergie ici, au niveau de la transmission de l'information, pour ensuite comprendre quel est le lien avec l'élément qui fournit l'énergie, qui sont les vaisseaux. Et en fait, j'anticipe un tout petit peu, un élément cellulaire qui est fondamental dans ce couplage, c'est-à-dire dans la détection des besoins énergétiques et la fourniture d'énergie, c'est une cellule particulière du système nerveux, une cellule non neuronale que l'on appelle l'astrocyte, dont j'aurai l'occasion évidemment de parler en détail. Mais le point que je veux faire aujourd'hui, en ce début de série de cours, c'est que l'on doit vraiment, quand on s'intéresse à la neuroénergétique, on doit définir, on doit prendre en compte ce que j'aime bien appeler l'unité neuroénergétique. C'est-à-dire, le neurone est essentiellement la synapse, des événements qui se passent au niveau de la synapse et qui coûtent beaucoup d'énergie. L'astrocyte qui est associé à cette synapse et qui consomme un peu d'énergie, mais surtout qui est le site de mécanismes qui permettent de coupler ces besoins d'énergie à la fourniture d'énergie, et bien sûr le capillaire qui est la source de l'énergie. Donc voilà ce qui sera au centre finalement de ce cours. Quand, chaque fois que vous verrez une image d'imagerie fonctionnelle cérébrale, qu'on parlera de consommation d'énergie, de couplage, de tout ce que vous voulez, c'est cette unité neuroénergétique qu'il faut avoir à l'esprit. On ne peut pas simplement s'intéresser à la consommation d'énergie des neurones sans prendre en compte les astrocytes et les capillaires qui sont associés. Alors, une question, comme vous voyez, je viens d'anticiper un tout petit peu en vous pointant finalement le niveau synaptique et ce qui est autour, c'est-à-dire l'astrocyte et le capillaire, comme étant le consommateur principal d'énergie. Et là, j'aimerais reprendre une expérience extrêmement élégante d'un des pionniers de cette neuroénergétique, Louis Sokolov, qui est celui qui a développé la technique du 2-déoxyglucose. Donc, le 2-déoxyglucose est un traceur, enfin, est une molécule qui est un analogue du glucose, qui est légèrement, enfin qui est déoxyglucose, qui est un analogue, et qui peut être marqué radioactivement. Mais la particularité de ce 2-déoxyglucose, c'est qu'il est transporté dans les cellules par les mêmes transporteurs que le glucose. Donc cette partie-là est identique au glucose. Il peut être phosphorylé, donc la première étape de son métabolisme est identique ou presque au glucose, mais ensuite, les étapes suivantes, les enzymes sont beaucoup plus sélectives, donc il y a une accumulation, c'est un cul-de-sac métabolique, le 2-déoxyglucose-6-phosphate, qui s'accumule dans un tissu, dans une cellule, et qui donc permet, avec des algorithmes appropriés, de calculer la consommation de glucose d'un tissu ou d'un ensemble de cellules. Et ensuite, on peut visualiser par radio-autographie, comme c'est le cas dans cette expérience, le site de consommation de glucose. On peut aussi, évidemment, s'il est marqué au F18, au fluor 18, en faire une TEP. Alors, la question qui se posait à l'époque, donc à la fin des années 70, quand Sokolov a développé sa technique, c'était de savoir, finalement, là aussi, c'était le début de la neuroénergie. Qu'est-ce qui coûte de l'énergie? Ou pourquoi ce glucose est consommé quand il y a une activité? Est-ce que c'est le corps cellulaire? Est-ce que c'est dans les dendrites que ça s'accumule? Enfin, où est la consommation d'énergie? Or, dans le cerveau, comme il y a une imbrication importante des terminaux, des présynaptiques, des profils postsynaptiques, de la glie, enfin, c'est impossible d'avoir une résolution cellulaire suffisante. Par contre, il y a quelques préparations, quelques sites du système nerveux où les terminaisons sont éloignées du corps cellulaire et donc déjà, ça pouvait donner une idée de où est consommée l'énergie. Et dans cette expérience très simple, où finalement, est physiologique, comme vous le savez, ces noyaux supraoptiques et paraventriculaires sont impliqués dans la détection de l'osmolarité sanguine. Donc, lorsque on modifie l'osmolarité sanguine, notamment on déshydrate, les neurones dans ces noyaux vont être activés et ils vont en principe consommer de l'énergie. Mais les corps cellulaires sont là et les projections sont dans l'hypophyse postérieure. Donc, la question Sokolov s'était dit, là, il y a les corps cellulaires, là, il y a les terminaisons. On va donner un stimulus physiologique, activer ces neurones et voir où le 2-déoxyglucose s'accumule. En fait, il a fait le même type d'expérience au niveau des ganglions sensoriels. Là aussi, le ganglion est séparé des terminaisons. Les terminaisons entrent dans la corne postérieure de la moelle épinière. Les corps cellulaires sont dans le ganglion. Donc là aussi, en faisant une stimulation sensorielle, il pouvait voir si le glucose était consommé plutôt dans les corps cellulaires ou dans les terminaisons au niveau de la corne postérieure. Eh bien, ces manips toutes simples démontrèrent qu'essentiellement, le gros de la consommation de glucose a lieu au niveau des terminaisons. Et aujourd'hui, tout ça paraît absolument évident, mais la consommation de glucose a lieu essentiellement ici, au niveau de ce que j'appelle aujourd'hui l'unité neuro-énergétique qui met en jeu le profil présynaptique, la terminaison présynaptique, le postsynaptique ici, le dendrite, par exemple une épine dendritique, et l'astrocyte là autour. Alors, je reviens maintenant à la question du budget. Qu'est-ce qui coûte tellement d'énergie? Et je vous dis, il y a eu 2-3 tentatives de le faire. Une en particulier a été faite en 2001, a été publiée en 2001 par Atwell et Loughlin, qui en fait ont décidé de déterminer quel était le coût d'un potentiel d'action dans un neurone glutamatergique de la matière grise corticale chez le rongeur. Alors, le choix d'un neurone glutamatergique paraît judicieux. Il faut savoir qu'il y a dans le cortex cérébral 85 à 90% des neurones sont glutamatergiques, utilisent le glutamate comme neurotransmetteur et par voie de conséquence, il y a à peu près 85 à 90% des synapses dans le cortex cérébral sont glutamatergiques. Donc l'idée, c'était de ramener au coût unitaire un potentiel d'action dans un neurone glutamatergique. Et pour ça, ils ont essayé, à partir de la littérature existante, de la rassembler et de faire un budget, comme on dit en anglais, bottom-up, à partir vraiment des données biologiques. Alors, c'est imparfait. Il y a pas mal de spéculations, enfin, un certain nombre de spéculations, d'approximations. Mais comme je vous l'ai dit, il faut bien démarrer quelque part. Et bon, le risque de ce genre d'exercice, c'est qu'on arrive à faire dire ce qu'on veut à ces chiffres. Mais enfin, ça se tient. Je commenterai là où, personnellement, j'ai des réserves. Mais partons, allons-y. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment le budget de la comptabilité de l'énergie, du coût énergétique de cette unité neuro-énergétique. Alors, pour ça, ils ont pris en compte le nombre de vésicules libérées lorsque un potentiel d'action envahit la terminaison présynaptique, le nombre de récepteurs postsynaptiques qui sont activés par vésicule de glutamate libéré, le flux ionique et le coût métabolique par récepteur activé, et puis un coût pour le recyclage du glutamate. Et donc, ils arrivent avec 3 valeurs qui sont le coût de la signalisation glutamatergique, c'est-à-dire le coût de ce qui se passe au niveau présynaptique, postsynaptique et le recyclage du glutamate, le coût nécessaire pour générer ce potentiel d'action qui va aboutir à la libération de glutamate, et puis, comme vous savez, les cellules du système nerveux sont polarisées du point de vue électrique, et ceci a un coût pour maintenir une différence de potentiel entre l'intracellulaire et l'extracellulaire, donc le coût pour maintenir le potentiel de repos. Alors, voilà quelques données. Ils ont estimé, à partir de la littérature, qu'une vésicule présente dans une terminaison glutamatergique contient à peu près 4000 molécules de glutamate. Et une des caractéristiques de la transmission glutamatergique, c'est que, je reviens là-dessus dans un instant, c'est que le glutamate, lorsqu'il est libéré, il est recapté de manière très efficace par l'astrocyte. Donc, l'idée, c'était d'évaluer le coût de ce recaptage, de cette recapture, pardon, parce qu'en fait, cette recapture, c'est le gradient électrochimique du sodium qui fournit la force électromotrice pour l'entrée de glutamate. Et donc, pour chaque glutamate qui entre, il y a 3 sodiums qui entrent. Évidemment, comme dans toute cellule, s'il y a une dissipation du gradient sodique, il y a une enzyme qui s'active, c'est la sodium-potassium ATPase, qui va consommer de l'énergie. Donc, ils ont essayé d'évaluer le coût énergétique par molécule de glutamate recapté. Combien ça va coûter pour extruder le sodium et combien ça va coûter pour transformer le glutamate en glutamine et le recycler au niveau présynaptique. C'est le cycle glutamate-glutamine. C'est une manière, en quelque sorte, pour la terminaison axonale, de récupérer le glutamate qui est libéré. Alors, bon, le premier coup, ce coup est assez facile. On sait que pour extruder les trois sodiums qui viennent avec le glutamate, ça coûte un tour de la pompe, donc ça coûte un ATP. Ça, c'est assez facile à calculer. Il faut savoir qu'il y a également un proton qui entre et le rétablissement de ce gradient coûte un sodium, vu que c'est un échange proton-sodium qu'il faut ensuite ressortir ce sodium. Ça coûte donc 0,33 ATP. Voilà donc pour une première estimation du coût d'extruder, de rétablir l'homéostasie sodique lorsque du glutamate entre. Mais ce glutamate, je vous ai dit, il est en partie recyclé, mais il est aussi métabolisé dans l'astrocyte. Ça, il faut bien avoir à l'esprit. On a tendance à surestimer ce cycle glutamate-glutamine en pensant qu'il est à 100%. Or, il y a des pertes. Et en plus, c'est probablement un système qui est relativement plastique, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de glutamate qui est recyclé parce que ce glutamate, donc on est maintenant dans l'astrocyte, là, le glutamate est transformé en glutamine qui va ressortir vers le neurone, mais le glutamate peut aussi participer à des cycles métaboliques et en particulier, pas à un des moindres, le cycle des acides tricarboxyliques, donc le cycle de Krebs. Donc le glutamate peut être transformé en alpha-cétoglutarate, qui est un intermédiaire du cycle de Krebs. Il peut être transformé en alpha-cétoglutarate soit directement par la glutamate déshydrogénase, soit par des enzymes qui, au passage, produisent de l'aspartate ou de l'alanine. Donc, juste avoir à l'esprit que le glutamate qui provient du neurone comme neurotransmetteur peut soit retourner sous forme de neurotransmetteur, entre guillemets, modifier la glutamine qui reproduira ensuite du glutamate, mais peut aussi entrer dans les échanges métaboliques au niveau de l'astrocyte et en fait fournir de l'énergie à l'astrocyte. Parce que si il y a du alpha-cétoglutarate qui est formé à partir de ce glutamate, c'est de l'énergie. Mais comme très souvent, pour produire l'énergie, ça coûte un peu d'énergie d'abord, il faut investir de l'énergie. Donc tout ce processus, la transformation en glutamine coûte en fait un ATP, enfin coûte une vésicule, et en fait de 11 000 molécules d'ATP. Donc, on verra, pour l'instant c'est des chiffres un peu absolus, mais on verra que c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est un certain coût. Ensuite, donc on vient de voir ce qui se passe dans ce cycle-là, qui est vraiment le recyclage du glutamate. Mais tout de même, la fonction principale du glutamate, ce n'est pas d'être capté par l'astrocyte, c'est de déclencher des processus postsynaptiques en agissant sur des récepteurs non-NMDA, NMDA et métabotropes et activer des conductances sodiques, calciques et aussi des processus de signalisation intracellulaire. Alors ils ont aussi estimé c'est le coût des actions postsynaptiques du glutamate. Donc, je passe en revue toutes ces étapes. Comme je vous dis, je reviens souvent parce que moi, je suis assez critique par rapport finalement aux données finales proposées. Mais par contre, la démarche est bonne. Je pense que c'est intéressant d'identifier chaque étape de la neurotransmission et d'essayer d'en déduire ou d'en calculer plutôt le coût énergétique avec évidemment les approximations, et là c'est à chacun d'estimer combien on approxime et combien on se départit de ce qui est la réalité. Mais voilà ce que Atwell et Loughlin proposent. Ils proposent que, de nouveau en prenant des données de la littérature, la libération d'une vésicule de glutamate, donc qui contient 4000 molécules de glutamate, va activer 15 à 50 canaux non-NMDA qui ont des temps d'ouverture assez brefs. Ce sont des canaux qui s'inactivent rapidement, des récepteurs canaux, donc de 1 à 5 millisecondes, et qui ont des conductances assez petites, de 11 à 13 picosiemens. Si on prend une différence de potentiel, un gradient électrochimique de 120 millivolts, c'est-à-dire avec entre le potentiel d'équilibre du sodium et le potentiel de repos de la membrane, le calcul amène à une estimation de 200 000 sodium qui vont rentrer par vésicule de glutamate qui est libéré présynaptiquement. Ce qui va coûter, si on reprend, alors quand on parle de sodium maintenant, enfin j'imagine vous avez fait ce lien, c'est évidemment la NAK-ATPase qui tourne et qui coûte 1 ATP par cycle. Donc ça nous amène à 67 000 molécules d'ATP. Les récepteurs canaux NMDA sont un peu différents, ils ont un temps d'ouverture plus grand, ils ont une conductance un peu plus grande, mais évidemment il y a le bloc magnésium qui fait qu'ils ne sont pas actifs immédiatement. Et ils sont perméables non seulement au sodium, mais également au calcium. De nouveau, l'estimation par vésicule, 180 000 sodium qui entrerait et 10 000 calcium. Si on sait que le calcium, en fait, est réextrudé par l'échangeur sodium-calcium, donc ça va réaugmenter la concentration en sodium qui va contribuer à l'activité de la pompe, on arrive à un total de, si vous voulez, 10 000 calcium, quelque part, du point de vue énergétique, correspondent à 30 000 sodium. Parce que c'est le coût de d'extruder un sodium par la pompe, c'est donc 3 sodium par cycle, ça nous amène à 70 000 molécules d'ATP. Et puis finalement, les récepteurs métabotropes, donc qui déclenchent, pour simplifier, la synthèse d'IP3, il y a des processus qui coûtent pour tamponner le calcium, des ATPases aussi, et en prenant en compte un volume d'épines dendritiques de 0,12 mm3, on a une petite erreur, on arrive à 3000 molécules d'ATP qui seraient, disons, le coût d'activer les récepteurs métabotropes. Bien. Donc, on vient de voir ce qui se passe ici. On a vu le cycle, le recyclage. On vient de voir ce qui se passe quand on active ces récepteurs et les récepteurs métabotropes. Maintenant, la question est qu'est-ce qui se passe lorsque le potentiel d'action envahit la terminaison présynaptique. Il y aura une dissipation du gradient calcique. Le calcium va augmenter pour faciliter et de ce fait faciliter la libération. Donc, quel est le coût énergétique au niveau présynaptique en termes de flux de calcium et également d'un coût intrinsèque du processus de libération, donc de la fusion par les protéines complexes que Sudo et autres ont mis en évidence, des Camilly, etc., pour libérer le glutamate et ensuite recycler cette vésicule. Alors là, les estimations sont les suivantes. Donc l'idée, c'est que en fait, un potentiel d'action va mobiliser ou va plutôt dissiper le gradient calcique de manière à augmenter le calcium en termes de nombre de ions, 1 fois 10 à la puissance 4 ions calcium par vésicule libérée. Donc, de nouveau, le calcium, le gradient calcique est rétabli par l'échangeur sodium-calcium, ce qui va coûter de l'ATP par l'ATPase, la NAK-ATPase. Et là, ils estiment 21 ATP par vésicule. Il y a de nombreuses protéines qui sont phosphorylées dans le processus qui aboutit à la libération de neurotransmetteurs. Et l'estimation est qu'en fait, il y a 400 ATP par vésicule qui sont consommés. Donc, vous voyez que le processus présynaptique ne coûte pas trop cher, mais enfin, voilà le coût. Et bien sûr, ensuite, il y a un coût important. Voilà, ça, c'est la grande question. Les estimations jusqu'à finalement ces travaux de Atwell et Loughlin étaient que le potentiel d'action coûtait pas très cher. D'après les estimations de Loughlin et Atwell, en fait, il coûte cher. Et peut-être la différence, c'est que Atwell et Loughlin, à juste titre, ont calculé ça pour un axone non myélinisé, comme l'on trouve dans la matière grise. Et évidemment, le coût énergétique d'un axone non myélinisé est plus grand qu'un axone myélinisé, pour toutes sortes de raisons que je pourrais discuter peut-être à l'occasion. Mais essentiellement, c'est que le coût énergétique est regroupé au niveau des nœuds de Ranvier. Les ATPases sont là, au nœud de Ranvier. La dissipation des gradients sodiques se fait uniquement au nœud de Ranvier, ou pratiquement, et pas tout le long de la surface de l'axone. Donc, c'est énergétiquement intéressant. La myélinisation, en plus d'apporter une augmentation de la vitesse de conduction, est intéressante du point de vue énergétique. Mais il se trouve que les axones intracorticaux dans la matière grise sont non myélinisés. Alors, coût du potentiel d'action. Alors, ils estiment que la propagation du potentiel d'action dans le cortex est de l'ordre de 4 cm. Pour dépolariser 100 millivolts, un axone non myélinisé de 4 cm et de 0,3 microns de diamètre, avec une capacitance de 1 microfaradé par centimètre cube, il faut 3,77 10 à la puissance 11 coulombs, qui correspond en fait à ce nombre de ions sodium. En fait, c'est pour charger la capacitance membranaire et pour dépolariser, il faut faire passer des charges positives de l'extérieur à l'intérieur sous forme de sodium par les canaux sodiques voltage dépendants de cet ordre-là. Il estime pour le soma, ils estiment une certaine valeur, une certaine dépolarisation, et aussi pour les dendrites, et là c'est groupé calcium et sodium, cette valeur-là. Bon, c'est là où on peut, d'ailleurs, une des choses qu'on peut discuter. Mais enfin, le résultat de tout ça dans la comptabilité fait qu'un potentiel d'action va coûter 3,84 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP. Et puis, dernier élément, c'est le coût du maintien du potentiel de repos. Il faut recharger la batterie en permanence. Il faut, pour maintenir une différence de potentiel de l'ordre de 70 millivolts pour les neurones, peut-être un peu plus pour les astrocytes. Là, voilà les valeurs qu'ils ont prises. Là aussi, à discuter, 200 mégaohms pour le neurone avec un potentiel de repos de moins 70 millivolts, constitué essentiellement par une perméabilité potassique avec un potassium avec un potentiel d'équilibre à moins 100 millivolts et un sodium à plus 100 millivolts. Ça coûterait 3,42 fois 10 à la puissance 8 ATP par seconde. Et l'astrocyte, 500 mégaohms, voilà les valeurs, moins 80 millivolts, et voici le coût, 102 fois 10 à la puissance 8 ATP par seconde. Donc, on arrive maintenant au budget de la transmission glutamatergique, qui est le suivant. Si on prend la signalisation glutamatergique pré- et post-synaptique, donc le potentiel post-synaptique, activation des récepteurs glutamatergiques, 140 000 molécules d'ATP par vésicule libérée. Le recyclage, donc le recyclage du glutamate par l'astrocyte avec ses processus métaboliques, le recyclage de la glutamine, 11 000 molécules d'ATP. Et l'homéostasie calcique et la libération présynaptique, 14 000 molécules d'ATP. Ceci nous amène à un total de 1,64 fois 10 à la puissance 5 molécules d'ATP par vésicule libérée. Première donnée intégrée. Deuxième donnée intégrée, genèse et potentiel et propagation du potentiel d'action. Le rétablissement du gradient sodique dissipé par un potentiel d'action, donc c'est toutes les charges qui ont passé pour charger la capacitance et pour dépolariser à l'intérieur de la face interne de la membrane, donc le sodium essentiellement, ça, pour le réextruder, ça coûte 3,84 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP, qui sont estimées être à 82% liées à cette dissipation du gradient au niveau de l'axone, 14% au niveau des dendrites et 4% au niveau du soma. Alors, maintenant, ça c'est des coûts comme ça pris dans leur isolement, mais en fait, lorsqu'un potentiel d'action est généré, finalement, quelle va être la quantité de vésicules libérées? C'est ça la question à aborder et à approximer. Alors, l'approximation, basée notamment sur des travaux alors très quantitatifs de Breitenberg et Schütz, propose qu'un potentiel d'action puisse évoquer la libération de glutamate au niveau de 8000 boutons synaptiques. Mais évidemment, la probabilité de libération dépend de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, moins la probabilité sera grande. Et eux, ils ont estimé qu'à 4 Hz, la probabilité est de 0,25, donc de 25%. Ce qui veut dire que depuis ces 8000 boutons, il y aurait une libération de 2000 vésicules. Alors, si on calcule le coût unitaire de la libération de vésicules fois 2000, on arrive à 3 fois 3,28 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP qui seraient libérées par un potentiel d'action. Et si on intègre ces deux valeurs, le coût du potentiel d'action et le coût de la conséquence du potentiel d'action, donc de la libération de glutamate, on arrive à cette valeur qui est peut-être la seule valeur à retenir, j'en sais rien, enfin, disons en tout cas à considérer pour le futur de la discussion, c'est que finalement, voilà, c'est 7, à peu près 7 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP par neurone, par potentiel d'action. Voilà le coût de la transmission glutamatergique. Alors, maintenant, ça c'est pour un potentiel d'action. Si on prend, et là, de nouveau, les estimations, il y a une approximation qui est faite, sans aucun doute. Quelle est la fréquence de décharge moyenne des neurones dans le cortex? Alors, évidemment, il y a une grande différence, mais une grande variabilité, en plus, selon qu'il s'agit de neurones... Bon, là, on est dans les neurones excitateurs, mais il faut savoir que les neurones inhibiteurs déchargent à des fréquences plus élevées. Enfin, l'estimation qui est faite est de 4 Hertz, et donc, ils arrivent, en reprenant le coût du potentiel d'action, le coût, disons, le coût consolidé de ce qui est des événements présynaptiques, postsynaptiques et du recyclage ici, ce qui nous amène à quelque chose de cet ordre-là, à 2,85 fois 10 à la puissance 9 ATP par neurone par seconde. Si on y ajoute le coût du maintien du potentiel d'action, voilà le coût de un neurone glutamatergique qui décharge à 4 Hz dans le cortex cérébral de rongeur, c'est-à-dire 3,29 fois 10 à la puissance molécule d'ATP par neurone. Si on prend des valeurs de Breitenberg et Schütz, qui ont effectué une étude quantitative très, très intéressante, c'est un petit livre que je recommande, qui a une dizaine d'années, mais qui est tout à fait d'actualité, on arrive et qu'on prend donc en considération le fait qu'il y a à peu près 9 fois 10 à la puissance 7 neurones par centimètre cube, donc par gramme, la prédiction à partir de toutes ces valeurs, c'est qu'il y aurait une consommation de 30 ATP par micromole, par gramme, par minute, qui serait consommée par la matière grise. Et ce qui est mesuré par la technique des déoxyglucoses et la consommation d'oxygène tirée de la littérature, mais Sokolov et Tal, on arrive à quelque chose de cette même ordre, c'est-à-dire 30 à 50. Évidemment que si vous modifiez la fréquence, vous décidez qu'il y a une autre fréquence de décharge, vous arriverez à un autre coût. C'est pour ça que je dis que finalement, ces mesures, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, naturellement. C'est le propre de ces simulations et de ces estimations. Donc, je reviens sur le point fondamental que je pense que la démarche est intéressante. Je pense qu'il y a pas mal d'approximations, certaines peut-être qui amènent à des données évidemment que l'on veut trouver, mais ça donne un point de départ. Et si on dérive de ça le coût par potentiel d'action par seconde, on voit qu'un potentiel d'action va coûter à peu près 6 à 6,5 micromoles d'ATP par gramme par minute. Et c'est une valeur une valeur repère, si vous voulez. Il y a quelques valeurs repères, peut-être qu'il est bon de maintenir. Alors, je vais conclure en essayant de résumer ce qui est... concerne le cortex de rongeur. Et j'aimerais juste ouvrir une fenêtre sur des estimations qui ont été faites pour le cortex humain. C'est notamment des travaux de Lenny. Là aussi, approximation est donc sujet à discussion. Mais c'est intéressant parce que finalement, tout ça nous amène à quelque chose que j'aimerais discuter plus tard. Aujourd'hui, c'était vraiment pour poser ces fondements du coût énergétique. C'est en fait... De voir comment ce coût de la transmission, 6,5 micromoles par potentiel d'action par neurone par seconde, qu'est-ce que ça implique en termes de traitement de l'information? En quoi le coût énergétique devient une limite, devient une contrainte pour le traitement de l'information et fournit donc vraiment ce cadre et ces contraintes? Alors, voilà, si on résume un peu tout ce que j'ai dit en termes un peu plus semi-quantitatifs, pour, dans cette estimation de Atwell et Loughlin, le coût principal est en fait le potentiel d'action, la propagation du genèse et propagation du potentiel d'action, 47%. Le deuxième coût, le plus important, c'est la dissipation des gradients au niveau postsynaptique, donc l'activation des récepteurs glutamatergiques. Un coût significatif, c'est le potentiel de repos, le maintien de la charge des potentiels. Et puis, on voit qu'en fait, le recyclage du glutamate et les événements présynaptiques coûtent assez peu. Et là, il propose en fait une corrélation. Là aussi, c'est une corrélation qu'il faut aborder de manière critique. Ils reprennent les coûts en les regroupant un peu différemment et en les mettant en relation à la densité de mitochondries. Donc, ils partent du principe, d'ailleurs essentiellement juste, que, on l'a vu, quotient métabolique de 1, donc ça veut dire qu'essentiellement tout le glucose est oxydé. Ils partent de valeurs de la littérature, notamment de Wong Riley, qui a mesuré la densité mitochondriale et, en noir. Et ici, leur coût énergétique estimé, en regroupant au niveau, le coût estimé et la densité mitochondriale au niveau postsynaptique, au niveau dendritique et au niveau dendrite et soma essentiellement. Et ils incluent ici dans le coût énergétique le coût postsynaptique, le coût des potentiels dendritiques et le potentiel de repos neuronal. Ici, la densité au niveau des mitochondriales, au niveau des terminaux axonaux, et le coût énergétique du potentiel d'action et de la partie présynaptique. Et finalement, ici, la densité mitochondriale gliale et le coût énergétique au niveau glial, donc le potentiel de repos et le recyclage. Je pense que cette donnée de la densité mitochondriale gliale peut être discutée. Il y a notamment des données récentes qui n'abordent pas directement ils n'ont pas mesuré la densité mitochondriale, c'est des travaux de Lovat et al. Du groupe de Nedergaard de la fin de l'année passée, qui ont montré, par approche transcriptomique, la présence importante de gènes codants pour des enzymes de la phosphorylation oxydative. Donc, tout ça pour dire, surtout venant de moi, parce que vous comprendrez mieux quand je parlerai de métabolisme glial, je pense qu'il y a une activité oxydative tout à fait significative dans les astrocytes aussi, en tout cas en conditions basales. Je crois qu'on arrive au bout du cours, de la leçon d'aujourd'hui. Je vais reprendre cette question de la neuroénergétique en début de cours la semaine prochaine. Et puis, j'aborderai finalement, on a vu maintenant qu'est-ce qui coûte, quels sont les processus qui coûtent de l'énergie. Et on va voir dans les deux prochaines leçons par quel mécanisme les neurones, qui sont quand même les gros consommateurs d'énergie, reçoivent les substrats énergétiques qui leur permettent de faire face à ces besoins énergétiques importants. Et c'est là où le rôle des cellules gliales, qui coûtent pas très cher, comme on le voit ici, du point de vue énergétique, mais en fait, elles sont essentielles dans le couplage entre l'activité neuronale et les coûts énergétiques liés à l'activité neuronale et la fourniture d'énergie qui provient notamment des capillaires intracérébraux. Voilà.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.